musique est un cri qui vient de l'intérieur.
I still have a dream.
Je rêve d'un autre monde.
Je voudrais tout d'abord vous faire partager une conviction de femme.
On n'a pas que de l'amour. Ça, non.
Tout homme, et à plus forte raison, tout artiste, désire être reconnu. Je le désire aussi.
Tous les mêmes, tous les mêmes, tous les mêmes, et y'en a marre.
And I'm feeling good.
Bonjour à toutes et à tous, c'est Vrino Micro, je suis ravie de vous retrouver sur RQC. Il n'y a pas péril en la demi-heure, une demi-heure pour aborder avec des invités, des sujets de société, des sujets d'actualité. C'est tous les troisièmes vendredis du mois, entre 13h et 13h30, sur RQC. Jazz, politique et décolonisation s'entremêlent dans Soundtrack to a Coup d'État. Ce grand huit historique révèle un incroyable épisode de la guerre froide. Ce film du réalisateur belge Johan Grimont-Pré sera diffusé au Centre culturel Moucronois le mercredi 10 décembre à 19h. Il met en lumière la façon dont la monarchie belge, le gouvernement des États-Unis et les multinationales se sont entendus pour utiliser des musiciens de jazz légendaires comme couverture pour des opérations secrètes visant à assassiner le Premier ministre du Congo, Patrice Lumumba. Pour nous parler de cette période sombre de notre histoire, de l'indépendance du Congo, de la situation actuelle, nous accueillons dans les studios de RQC Luc Dussolier, un homme au parcours professionnel et militant impressionnant qui lui a permis d'avoir une réelle connaissance du terrain. Vous avez passé 10 ans au Congo, des années que vous qualifiez de riches. Des années, je vous cite, qui vous ont aidé à comprendre les réalités africaines, à voir le monde et ses réalités à partir du Sud, et surtout à remettre en question la façon dont nous envisageons souvent notre coopération et notre solidarité internationale. Dans quel cadre y étiez-vous ?
Donc j'ai commencé à aller au Congo en 2005, quand je travaillais aux mutualités chrétiennes. J'étais directeur de la mutualité chrétienne de Hainaut Picardie et la mutualité avait un partenariat avec l'archidiocèse de Bukavu sur la question du développement des mutuelles de santé, qui avait un partenariat qui a commencé en 96-97, donc en pleine période de la première guerre du Congo. Et donc c'est dans ce cadre-là que j'ai été amené à me rendre à Bukavu pour consolider le partenariat et que finalement en 2010 j'ai été sollicité pour aller travailler là-bas à temps plein et donc j'ai démissionné de mes fonctions de direction à la mutualité chrétienne et j'ai été travailler à Bukavu pendant quelques années avant de passer à Kinshasa, toujours dans le développement des mutuelles de santé.
Comment avez-vous vécu cette période ?
Ben donc je dirais c'est une comme vous avez dit au début, c'est peut-être une des périodes les plus riches de ma vie, une des plus difficiles aussi, parce que voilà, on est confronté quand même à d'autres réalités, à une situation sociale qu'on ne peut pas imaginer ici, avec une pauvreté importante. Hein. On a quand même 85% de la population qui vit avec, à l'époque, moins de 1 dollar par jour. Donc des réalités aussi de contexte de conflits armés, de milices, donc d'insécurité. Donc c'est dans un contexte difficile. Et puis voilà, il y a la pauvreté, c'est un autre climat, il faut s'habituer à plein de choses. Et donc oui, c'est à la fois... c'était aussi l'éloignement de la famille, des amis, du pays. Donc voilà, c'était à la fois difficile, mais aussi très, très riche. Hein. C'est quand même une période, une confrontation à la réalité qui m'ont permis quand même de voir le monde, peut-être, et la vie différemment.
Pour comprendre cette RDC, République donc, démocratique du Congo, il faut revenir peut-être sur les circonstances dans lesquelles le Congo est devenu une colonie belge.
Ah, ben donc, c'est la période, c'est les années 1800, hein, quand les puissances européennes, en fait, se partagent l'Afrique. Hein. C'est l'accord de Berlin de 1885. Puissances comme la France, l'Allemagne, la Grande-Bretagne concèdent à Léopold II la possession personnelle du Congo. Mmh. Donc, mais ce qui est important de dire, c'est que si cette concession a été faite à Léopold II, c'est parce qu'il avait financé avec Stanley les prospections. Mais là, il faut quand même se rappeler, c'est quand même peut-être à la base de beaucoup de choses, c'est que la condition imposée à Léopold II, c'est que le Congo... Donc, possession personnelle du roi, hein, ce n'était pas une colonie belge à l'époque, hein, du roi Léopold II, à condition que ça reste, on peut dire, une sorte de zone franche avant la lettre. Hein, donc, où chacun était invité et libre de venir se servir. Donc, les richesses du Congo étaient déjà évidemment la proie de tout le développement économique capitaliste de l'époque.
C'était ça la nature du régime colonial instauré par Léopold II, puis par l'État belge.
Et par l'État belge, il faut quand même se rappeler aussi que même prédécemment, avant cette période, il y a tout le Congo a souffert de la traite négrière. Hein. C'est quand même des millions de jeunes Congolais, essentiellement des jeunes hommes en bonne santé, en pleine force de l'âge, des femmes qui ont été de force amenées en esclavage aux États-Unis, au Brésil. Donc on peut dire que le Congo participe à ce qu'on peut appeler l'accumulation primitive du capital à l'époque, à travers justement la traite négrière. Et puis c'est la période de coloniale avec Léopold II, avec le... y compris aussi tous les mécanismes de travail forcé. C'est toute l'époque de développement de l'industrie automobile avec l'importance de, à la fois du cuivre, mais surtout du caoutchouc. Et puis Léopold II ne réussit plus à tenir sa colonie, sa possession personnelle, et donc il y a des tractations avec la Belgique pour que l'État belge reprenne la colonie en son nom. Ce qui a été fait avec, je pense, quand même certaines réticences au niveau politique. Mmh. Tout le monde n'était pas d'accord. Et bon, finalement, ça s'est fait début du XXe siècle.
Et quelle image la Belgique véhiculait telle au Congo pendant cette période coloniale ?
Mais bon, j'y étais pas. Hein,
oui, oui, bien sûr.
Mais, donc, je pense que c'est ambivalent dans le sens où, évidemment, l'accumulation de richesses s'est faite par notamment la Société Générale, hein, qui a été un des grands acteurs de la prédation au Congo. Et donc, l'enrichissement de la Belgique s'est fait sur le dos de Congo, à travers des colons qui étaient, à travers des entreprises. C'est ambivalent dans le sens où je pense qu'on doit pouvoir dire aussi que, et ça reste dans la mémoire des Congolaises, à côté de tout cet aspect de prédation, de développement, finalement, d'une économie extravertie, hein, qui était quand même essentiellement destinée à enrichir la métropole. Bon, la Belgique a aussi
amené des choses au Congo.
Amené des choses en termes d'œuvres sociales, au niveau de l'éducation.
Infrastructures routières peut-être aussi, ou non, pas
oui,
vraiment.
Oui, il y a eu des infrastructures routières. Maintenant, avec le recul critique, on peut dire aussi que ces infrastructures routières étaient essentiellement destinées
à véhiculer les ressources.
Et l'écoulement des produits. Ouais. Mais il y a eu des infrastructures routières, il y a eu des trains, il y a eu des développements d'un système de santé, même si au départ c'était censé être d'abord pour les colons, mais puis quand même ça s'est étendu.
Ah oui, quand même. Oui, oui.
Oui, et puis ça s'est étendu aux populations. Il y a eu
au niveau de l'enseignement également ?
Au niveau de l'enseignement, avec la réserve et la critique qu'on peut formuler, c'est que la Belgique, c'est surtout avec quand même une vision très, à la fois prédatrice et très paternaliste aussi. Hein. Mais donc, l'enseignement, la Belgique a surtout développé l'enseignement primaire et professionnel.
Hein. Oui.
En 60, au moment de l'indépendance, il y avait moins de 10 Congolais qui avaient fait l'université. Donc, contrairement peut-être à d'autres colonisations comme la Grande-Bretagne ou la France, qui avaient quand même veillé aussi à former des élites dans leur colonie, la Belgique n'a pratiquement pas fait ça.
Dans les années 50, quelles étaient les principales revendications, donc peu avant donc l'indépendance en 60, des mouvements nationalistes congolais ?
Bah, c'était l'indépendance.
L'indépendance.
C'était quand même dans un climat où, après la Deuxième Guerre mondiale, il y avait quand même toute une revendication d'indépendance dans l'ensemble de l'Afrique, de l'Asie, l'Amérique latine l'avait déjà conquise, et avec un jeu subtil que les États-Unis ont fait mine, en tout cas ont soutenu un processus d'indépendance pour fragiliser les métropoles européennes aussi, et pour quelque part prendre leur place. Ça a été un des conflits, puisqu'on parle de Lumumba. Quand Lumumba était, au début qu'il était Premier ministre, il a d'abord essayé de faire en sorte que les entreprises restent aux mains des Belges contre la logique des multinationales américaines. Quoi.
Oui. On peut rappeler justement le rôle qu'a joué dans la lutte pour l'indépendance ce Patrice Lumumba, plus précisément.
Bon, je pense que c'était un des grands leaders nationalistes qui d'ailleurs avait, parmi ses proches, il avait quelques figures de grands progressistes belges. Hein. Il y avait peut-être qu'on ne se souvient pas de Jean Van Leerde, qui était le premier objecteur de conscience en Belgique. Il y avait aussi plusieurs partis autour de celui qui va devenir le président, Kazavubu. Ce qu'il faut se rappeler peut-être aussi, c'est qu'en 1958, il y a un politicien belge, Van Bilzen, qui propose un plan d'indépendance pour le Congo, un plan en 30 ans. ça a provoqué un tollé en Belgique en disant en 30 ans, vous n'imaginez pas, c'est pas possible, ils seront jamais prêts. Deux ans après, de façon accélérée, la Belgique concède l'indépendance. C'est pour dire l'état d'impréparation aussi au niveau congolais. Voilà, ça c'est.
Ça a été trop vite, d'après vous cette...
En tout cas, la Belgique, à un moment donné, même les Congolais ne voulaient pas que ça aille si vite.
Oui.
Dans les négociations, table ronde, etc., ils ne s'attendaient pas à ce que ça aille si vite. Et puis la Belgique a tout lâché. Et la Belgique a tout lâché en autorisant les entreprises belges qui avaient leur siège au Congo, de rapatrier leur siège et leurs avoirs en Belgique. Donc le Congo était exsangue. Non seulement il n'avait pas de cadre, il n'avait pas de personnel formé pour reprendre la gestion du pays. Mm-hmm. La première phrase, une des premières phrases de Lumumba, quand il découvre l'ampleur des dossiers, c'est « par où commencer ?»
Il aura aussi un discours très fort lors de la proclamation de l'indépendance. Quels étaient les principaux points qu'il avait abordés à ce moment-là ?
Il est sorti de son texte pour répondre au discours quand même très, très paternaliste et encore colonialiste du roi Baudouin.
Oui, à l'époque.
Donc il faut aussi quand même rappeler que même la cour royale, le roi Baudouin, ont probablement joué un rôle trouble et le gouvernement belge et la CIA dans l'assassinat de Lumumba.
Pourquoi Lumumba a-t-il rapidement été perçu comme une menace, aussi bien par la Belgique que par certaines puissances occidentales?
Ouais, parce que c'est un processus qu'on observera dans beaucoup de pays, parce que Lumumba voulait vraiment une indépendance qui se concrétise aussi par une indépendance économique, donc une reprise en main des richesses du Congo au profit du peuple congolais. Et donc ça, c'était inacceptable pour le capital européen et encore moins pour le capital américain. Et donc Lumumba, quand il va se rendre compte que finalement il ne trouve pas d'appui en Occident, certains disent que c'est une erreur stratégique et politique, il se tourne vers
la Russie,
l'URSS. Et donc on est dans un contexte de guerre froide, encore très forte. Kinshasa était un peu la plaque tournante de la CIA pour toute l'Afrique centrale, pour empêcher, parce qu'il y avait aussi, faut se rappeler, les mouvements révolutionnaires au Mozambique, en Angola, l'Afrique du Sud qui remuait. Et donc... voilà, on a installé Kinshasa Mobutu avec une mainmise très forte des États-Unis et la CIA qui était installée là-bas et qui a fait de Kinshasa sa plaque tournante.
Dans le contexte tendu justement de cette guerre froide, le jazz devient une arme à double tranchant. Le film Soundtrack to a Coup d'État révèle ainsi qu'un épisode édifiant où Armstrong, pourtant considéré aux États-Unis comme une voix contre l'oppression avec des chansons puissamment engagées, aurait été utilisé comme couverture par la CIA. Son concert en Afrique, d'ailleurs présenté comme un geste d'amitié, aurait permis l'exfiltration secrète de 1500 tonnes d'uranium vers les États-Unis.
Je n'ai pas vu. Je vais le découvrir comme dans le film.
Mais ce sont des anecdotes que vous connaissez.
Je ne connaissais pas, mais c'est pas étonnant. Donc, ça c'est
le rôle de la CIA, des États-Unis dans tout ce qui est colonie et décolonisation. C'est terrible. Quoi.
Tout à fait. Ils sont tout à fait capables d'utiliser soit des artistes, soit des ONG pour faire des missions eux, parfois, à leur insu.
Oui, tout à fait.
Notamment dans l'Est du Congo, moi quand j'y étais, on savait des grosses ONG comme par exemple Handicap International, infiltrées aussi par la CIA, utilisées par la CIA pour faire du travail de prospection sur le terrain, de repérage des sites miniers, des groupes armés, etc. Quoi. Donc une utilisation d'ONG vis-à-vis desquelles on est naturellement en sympathie, qui sont utilisées, qu'elles le sachent ou qu'elles ne le sachent pas.
Oui, c'est ça.
On peut même imaginer que c'est à l'insu
de leur plein gré, comme disait l'autre. oui.
Qu'elles sont utilisées. Quoi. Donc que des artistes aient été utilisés, ce n'est pas étonnant. Donc c'est évident quand on connaît Armstrong et ce qu'il a dit et ce qu'il a fait, que ce n'est pas délibérément qu'il a été le jouet du pouvoir américain. Je ne peux pas l'imaginer. Mm-hmm. C'est vrai qu'il faut se rappeler que la question de l'uranium, à l'époque, c'était la concurrence avec les nazis. Même c'est Einstein a joué un rôle en alertant les États-Unis sur le fait que l'uranium congolais était là et qu'il y avait un risque que ce soit les nazis qui mettent
qui
la main dessus.
Quoi, hein.
Et donc voilà, c'est quand même l'uranium congolais du Katanga qui a servi aux premières bombes nucléaires qu'on a envoyé sur le Japon.
Hein. Mmh. Alors dans l'ombre de Patrice Lumumba, un certain Mobutu qui gravit les échelons du pouvoir, il était même le confident en fait de Patrice Lumumba à un moment donné, tout en nouant secrètement des alliances avec les États-Unis et la Belgique.
Oui, bon, mais ça c'est quelque chose qu'on peut dire, ça continue quoi, hein, du côté des politiques congolais, avec souvent très peu de vraies convictions, très peu d'ancrage idéologique, c'est donc beaucoup d'opportunisme, de trahison, on va d'un côté, on va de l'autre. Et il a été acheté, il a été utilisé, on lui a fait miroiter qu'il deviendrait le patron, et voilà, il a contribué à la liquidation de Lumumba. Mais je pense qu'il n'aurait pas plus, il n'aurait pas pu seul liquider Lumumba, hein. C'est évident qu'il a bénéficié
de toute l'aide
de la CIA et du gouvernement belge, hein, Eskens à l'époque.
Est-ce qu'il existe des preuves aujourd'hui de l'implication justement de la Belgique dans l'assassinat de Patrice Lumumba?
Il y a eu une commission au niveau du Parlement belge, hein, qui a quand même tiré des conclusions qui vont dans ce sens-là. Mais bon, voilà, ça n'a jamais été beaucoup plus loin en termes de justice, quoi.
En 2020, à l'occasion du 60e anniversaire de l'indépendance du Congo, le roi Philippe avait exprimé ses plus profonds regrets pour les blessures de la colonisation dans une lettre destinée au président Tshisekedi. Pas d'excuses ? Que des regrets.
Il est sous contrôle du gouvernement, hein, donc c'est clair qu'au niveau du gouvernement, il n'y a pas eu d'accord pour qu'on ait jusque des excuses. Bon, sans doute qu'il y a des questions juridiques, aller jusqu'aux excuses, je crois que leur crainte, je pense qu'il faudrait plus que... Ça suffit même pas de s'excuser. Mais leur crainte, c'est que des excuses peuvent ouvrir la voie à des réparations, à des dommages, etc. C'est de ça qu'ils ont peur, quoi. Mm-hmm. Maintenant, la vraie question, c'est que je pense qu'il faut reconnaître tous ces éléments du passé. Mais la vraie question, c'est et aujourd'hui, hein, qu'est-ce qu'on permet, qu'est-ce qu'on continue de faire, comment on est encore quelque part complice des prédations qui continuent au Congo, hein, et on le voit avec les guerres qui ont repris à l'est du Congo depuis début d'année.
On parlait donc de Léopold II tout à l'heure, donc on le disait, donc bâtisseur, visionnaire, mais aussi pilleur, exploiteur, responsable d'un massacre que certains historiens qualifient de crime contre l'humanité. Depuis plusieurs années, des associations et des militants se battent pour le démoulonnage des statues des colons de l'époque, dont Léopold II faisait partie. Quel est votre point de vue sur la question ? Est-ce que ça contribue au travail de mémoire ?
Bon, ça peut aussi faire disparaître. Certains plaident pour qu'on les laisse, mais qu'on explique aussi, qu'il y ait un travail d'explication. Parce que, objectivement, pour la population du Congo, c'est pas l'enjeu principal. C'est pas au Congo qu'on se mobilise là-dessus, quoi. C'est plus des gens de la diaspora. Et je peux comprendre, hein, parce que ça peut être... choquant la façon dont, pour eux, dont on met comme ça Léopold II en exergue, en faisant de lui une sorte de héros, de bâtisseur, alors qu'il a d'abord été un destructeur, quoi. Donc ça, je peux comprendre. Mais certains disent, est-ce qu'il ne vaudrait pas mieux, peut-être pas maintenir dans tous les espaces publics, mais au moins avoir des espaces où on maintient ça et on fait un travail d'explication.
C'est ça, surtout.
Pour aller plus en profondeur, pour arriver aussi à remettre en question l'échange inégal Nord-Sud qui continue à être d'actualité aujourd'hui, hein, que ce soit, enfin, c'est pour l'ensemble des pays du Sud, mais notamment l'Europe par rapport aux richesses du Congo, on est impliqué de la même façon, hein, nos multinationales sont toujours très bien présentes. Et c'est pas les logiques de développement de l'armement aujourd'hui qui va nous aider là-dedans, hein, parce que ça nécessite notamment de mettre la main sur des quantités phénoménales de minerais stratégiques et qui sont en abondance au Congo, hein, pas que là, mais là-bas elles sont en abondance. Et vu l'état du pays, c'est facile d'aller se servir.
Et elle suscite toutes les convoitises,
oui,
évidemment.
Tout à fait.
Revenons un peu sur cette histoire du Congo. En 1965, un coup d'état mené par Mobutu, avec l'appui, encore une fois, de la CIA, qui renverse le pouvoir en place. Mobutu qui régnera en dictateur pendant 32 ans, rebaptisant même le pays Zaïre en 1971. Et en 2001, Laurent-Désiré Kabila met fin au régime mobutiste et décide de revenir au nom de RDC.
Première guerre, c'est 96. réalisent. Au moment du génocide au Rwanda, oui, il y a d'abord des milliers, des dizaines, peut-être des centaines de milliers de Tutsis rwandais qui ont fui à l'est du Congo pour échapper au génocide. Et puis la guerre interne au Rwanda, Kagame vient d'Ouganda, fait la guerre pour prendre le pouvoir. Et là, c'est l'inverse. Les Tutsis rentrent et c'est les Hutus qui se réfugient à l'est du Congo. Le Sud Kivu, qui à l'époque faisait une population peut-être de 4 millions d'habitants, va faire face à un afflux d'à peu près 1 million de réfugiés. Et donc ça, c'est entre 94 et 96. Et en 96, Kagame, sous prétexte de poursuivre les génocidaires Hutus qui se sont réfugiés à l'est du Congo, commence sa première guerre avec, évidemment, avec l'appui essentiellement des États-Unis. Et il utilise Kabila. Mm-hmm. Kabila, qui était un vieux révolutionnaire congolais, réfugié dans les montagnes de Fizi, donc c'est le sud du Sud Kivu. Il avait entretenu sa guérilla là, depuis le début de l'époque de Mobutu. Le Rwanda utilise Kabila. Donc Kabila était un opposant. Kabila, lui, dans sa tête, c'est lui qui utilisait les Rwandais pour pouvoir abattre Mobutu et prendre le pouvoir. Et les Rwandais ont utilisé Kabila pour donner une façade, un habillement congolais à la guerre qui c'est était ça. Menée. Quoi. Et à l'époque, il faut quand même se rendre compte aussi, ça a été déterminant, c'est en 89, l'Union soviétique, c'est fini. Mm-hmm. Hein, et donc, Mobutu ne sert plus à rien. Il est démonétisé parce qu'on se servait de lui comme pion contre contamination communiste. Mais à ce moment-là, on n'avait plus besoin de lui, donc on l'a laissé tomber. Quoi. Les forces armées zaïroises, à l'époque, mal payées, mal entraînées, c'était la déroute. Et donc, voilà, c'est comme ça que les choses... C'est la première guerre du Congo. Et puis, un peu après... Donc Kabila prend le pouvoir. Contrairement à ce que les Rwandais pensaient faire, il s'instaure président de la République. Quoi. Et quelques mois après, il dit aux Rwandais « Merci beaucoup, rentrez chez vous ». La deuxième guerre du Congo va commencer en 98.
Et vous étiez sur place encore lorsqu'il y avait la guerre. Finalement, elle n'a jamais cessé.
Elle n'a jamais vraiment cessé. Ouais. Quand moi j'ai commencé à en 2005, ouais. C'était plus vraiment la guerre, mais c'était Kabila, le jeune Kabila était déjà là, mais il y avait encore beaucoup de groupes armés, de troubles, etc., qui continuaient. Hein. Donc en 2004, il y a l'ancêtre du M23, CNDP, avec Laurent Kunda, qui a pris Goma, qui avait pris Bukavu aussi, avec aussi encore beaucoup des tueries, des viols.
Des milices, des groupes armés, c'est ça.
Essentiellement, et financés, essentiellement des Rwandais, composés de beaucoup de Rwandais, sous déguisement congolais. Voilà, ça c'est une des tragédies qui explique la faiblesse aussi du Congo aujourd'hui, parce que il faut bien analyser les choses. Il y a à chaque fois eu des rébellions, et puis à chaque fois, pour essayer d'aller vers un processus de paix, des négociations se font, et notamment sous pression de l'Occident, notamment de la Belgique, avec notamment Louis Michel, on a chaque fois fait ce qu'on a appelé des opérations de brassage et mixage. Donc ça veut dire qu'on intègre les groupes rebelles armés dans l'armée officielle. L'objectif, soi-disant, c'est la seule façon qu'ils ne reprennent pas les armes, c'est la paix, etc. Mm-hmm. Bon, mais ils sont là. Et ce qu'on a observé chaque fois, c'est qu'un groupe rebelle est intégré, un autre groupe rebelle renaît. Et la deuxième chose qu'on a observée, c'est qu'à l'occasion de cette intégration des groupes rebelles dans l'armée congolaise, ce sont des généraux, des officiers rwandais qui ont pris les commandes de l'armée congolaise. Et donc la trahison est à l'intérieur.
C'est ça.
Donc c'est un des facteurs, c'est pas le seul, mais c'est un des facteurs qui explique la fragilité de l'armée congolaise encore aujourd'hui.
Aujourd'hui, le président, c'est Félix Tshisekedi depuis 2019. Quelle est la situation actuelle en République démocratique du Congo ? Vous avez déjà répondu en partie, mais...
Les amis congolais disent, nous, en tout cas à l'Est, ils disent, nous, on est confrontés à deux fronts. On a le front extérieur avec l'agression qui vient essentiellement du Rwanda et de l'Ouganda, et on a le front intérieur, dans le sens où on a un gouvernement peu efficace, avec des politiciens qui ne pensent qu'à se servir, à rejoindre les standards de vie occidentaux, souvent l'ostentation en plus, et donc avec très peu de choses qui se construisent. Donc le budget de l'État congolais est faible, et le peu qui arrive, une bonne partie aussi, est détourné.
Avec toutes leurs ressources naturelles.
Non, elles ne profitent pas au Congo.
Hein. Bien sûr.
Elles profitent essentiellement aux multinationales, que ce soit américaines, canadiennes, Grande-Bretagne, la France, elle a aussi, hein, Total Energy, Perenco, etc. Et aussi les Chinois, évidemment. Hein. Donc c'est comme s'il y avait une véritable guerre économique entre Occident, d'abord entre puissances occidentales, mais aussi entre l'Occident et la Chine, pour le contrôle des minerais stratégiques du Congo. Hein. Mm-hmm. Donc il y a une véritable guerre qui se mène sur le sol congolais.
Et le peuple dans tout ça?
Le peuple souffre. Hein. Ils vivent, je vous ai dit, dans une misère quand même assez effroyable. Hein. Dans le début, il faut se rappeler, dans le début des années 2000, c'était plus vraiment la guerre, mais les conséquences de la guerre étaient toujours là. Dans le sud Kivu, le taux de mortalité infanto-juvénile, donc les enfants qui mouraient avant l'âge de 5 ans, c'était 460 pour 1000.
Wow, ouais.
Donc je ne sais pas si on se rend compte, ouais. C'est presque un enfant sur deux.
Pourquoi n'en parle-t-on pas plus?
Et on a, ouais, alors que la guerre a repris, on en a parlé un petit peu au début d'année, on n'en parle plus parce que bon, on est sans doute polarisé sur d'autres. Il y a le conflit de l'Ukraine qui polarise la tension, qui nous touche peut-être plus parce que voilà, c'est près de chez nous et que ça pourrait nous tomber sur la figure. Il y a tout le conflit Palestine et Gaza dont on parle à juste titre, parce que voilà, on se mobilise aussi depuis des décennies sur ce conflit-là. Le conflit du Congo, ça a l'air d'être un conflit comme d'autres. Hein. Le Soudan, on n'en parle
pas
trop non plus.
Et quelle est la relation aujourd'hui qu'entretient la Belgique avec la RDC?
Bon, j'ai observé qu'au début d'année, notre ministre des Affaires étrangères a réagi de façon assez nette. De façon, on peut dire, nette par rapport à l'agression rwandaise. Ce qu'elle a eu des conséquences, c'est que le Rwanda a coupé les relations diplomatiques avec la Belgique. Donc on n'a plus d'échanges avec la Belgique. Et même les ONG ne peuvent plus travailler au Rwanda, les ONG belges. Et depuis, on n'en parle presque plus. Hein. On a essayé, je crois que Prévost s'est démené pour essayer de faire en sorte aussi que l'Union européenne bouge et dénonce notamment l'accord d'association avec le Rwanda. On n'y est pas arrivé, et aujourd'hui, on en parle peu, trop peu. Peut-être qu'un des éléments, je pense que ça joue aussi, c'est que peut-être que la Belgique est un peu découragée, parce qu'elle se dit qu'il n'y a pas de véritable interlocuteur du côté du pouvoir congolais non plus, ce qui n'est pas tout à fait faux non plus. Hein. Donc voilà, maintenant.
Est-ce qu'il y a des personnes qui émergent justement de ce côté-là, ou tout est cadenassé par Tshisekedi et compagnie et consorts?
Aujourd'hui, c'est sa coalition, c'est lui et son clan qui cadenassent tout. Bon, demain, ça peut être d'autres, mais qui sont dans la même logique. C'est comme si on arrive au pouvoir, puis c'est à notre tour de bouffer, quoi. Et donc, sans avoir une vraie vision de développement intégral du pays au bénéfice de la population. Donc ça, c'est de, donc personnellement, c'est l'affaire de la politique congolaise. Ça doit rester d'abord l'affaire des Congolais. Moi, mon avis, c'est que je ne pense pas que le Congo va sortir de l'ornière par le haut, par le pouvoir politique, s'il n'y a pas d'abord une société civile qui est plus forte, qui s'organise à l'échelle nationale, parce qu'elle existe. Il y a beaucoup d'associations au Congo. Il y a une vie société civile foisonnante. Hein, il faut dire ça aussi, la richesse du Congo, c'est quand même...
pas seulement les ressources naturelles, c'est aussi...
Non, c'est sa population qui se mobilise, c'est sa jeunesse. Hein, alors aujourd'hui, j'ai des amis congolais qui disent on continue à résister, mais est-ce qu'on va tenir, quoi? On sent bien que dans la population, il y a quand même un découragement.
Et l'aide internationale, l'aide belge est encore bien présente sur place?
Oui, oui.
Donc, les associations...
Et même l'aide gouvernementale. Et beaucoup d'ONG. Donc la coopération de la Belgique, que ce soit la coopération bilatérale d'État ou la coopération via les ONG, reste un des des pays les plus importants de la coopération belge. Et je crois que ça va le rester.
Merci en tout cas Luc Dussoulier de nous avoir relaté l'histoire du pays, d'un peuple encore meurtri par le colonialisme. Nous vous retrouverons donc ce mercredi 10 décembre à l'occasion de la diffusion du film Soundtrack to a Coup d'État. Et vous serez notre expert du jour. Voilà, il n'y a pas péril en la demi-heure, c'est terminé. On se donne rendez-vous dans un mois, le vendredi 19 décembre, entre 13h et 13h30 sur RQC. Et sinon, vous pouvez nous retrouver en podcast sur le site de RQC, celui du Centre culturel Moucronois, www.centreculturel-de-moucron.be, ainsi que sur toutes les plateformes d'écoute. À bientôt pour un nouvel épisode. And I'm feeling good. Fish in the sea, you know how I feel. River running free, you know how I feel. Blossom on the tree, you know how I feel. It's a new dawn, it's a new day, it's a new